dis non, mais à la vie, je dis oui.
Bonjour à tous, vous êtes sur FPP 106.3 avec l'émission Zoom Écologie. Donc là, c'est l'équipe, la bande à Bébert qui est avec vous ce jeudi. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs équipes. D'ailleurs, tu veux peut-être nous faire un petit point là-dessus.
Oui, alors ce que je pensais, c'était peut-être le moment de la rappeler, sachant que l'émission Zoom Écologie, c'est hebdomadaire. Il est répété le lendemain, le vendredi à 11h du matin. Normalement, s'il n'y a pas de papin, c'est la même émission que le jeudi d'avant, le jeudi la veille. Et en fait, chaque semaine, il y a une équipe plus ou moins homogène. Donc, la première semaine, c'est une équipe. La deuxième, c'est une autre. On avait la fameuse équipe des décroissants qui faisait toujours l'émission du premier jeudi du mois. Malheureusement, ils avaient une charge de travail un peu trop. Donc, ils sont partis à partir du mois de septembre et une nouvelle petite équipe est arrivée. Nous, c'est donc la fameuse bande à Bimbert. Qui est la plus grande équipe, là, ce soir, on se trouve un petit peu démunis parce que c'est les fêtes et les autres sont partis un peu partout. La bande à Bébert. Donc, ce soir, on va faire un petit récapitulatif, un petit revue, passant en revue de ce que nous avons fait cette année, toutes les dernières semaines du mois.
Alors, déjà, comme on l'a dit, y a Rebecca.
Voilà, moi, c'est Rebecca.
Qui est là ce soir. Il y a Khaled.
Salut.
Il y a Johan.
Bonjour.
Qui est la technique. Et puis, Élise.
Donc, bonjour Élise.
Bonjour.
Bonjour Élise.
Donc comme tu l'as dit, cette année on a évoqué plein de thèmes donc relatifs à l'écologie. Donc on a parlé des OGM, de l'eau, du vin, de la publicité, de Copenhague, du camp Action Climat. Donc il y avait pour but de mener une action contre Total. Et donc là on va peut-être faire un petit bilan aussi perso. Voir ce que chacun retient de cette année et peut-être aussi quels sont vos vœux pour 2011. Alors je ne sais pas qui se sent d'attaque.
Tu as une question plus précise sur quelle thématique, parce que là tu en as cité plein. Et c'est vrai, pour chaque thématique, il y a de quoi dire. Donc,
Laquelle qui te inspire le plus, Khaled ?
Est-ce que l'année a été verte ?
En tout cas, c'est vrai que c'est surtout cet été qu'il y avait pas mal de choses, je trouvais. Enfin, avec le camp Action Climat et... il y a eu avec Copenhague. C'est vrai qu'il y avait des moments forts avec Copenhague, le camp Action Climat. Il y avait aussi, quand on a fait sur le Grenelle aussi, il y avait des choses intéressantes à ce niveau-là. Après, c'est vrai que le bilan, il est pas... Il est mitigé, quoi. Il y a des progrès. Enfin, on voit bien, par exemple, par rapport à... voilà. Et des progrès, mais il y a aussi des cas où on revient un peu en arrière. En tout cas, de ce que moi je vois depuis que je suis militant, en fait, je suis vachement content parce qu'on voit plein de choses de partout qui se passent, et plutôt dans les trucs alternatifs. Donc du coup, moi, ça me pousse plutôt à être optimiste par rapport à l'évolution des choses. Personnellement, quoi. Mais après, globalement, je ne sais pas comment les autres vivent la chose.
Moi, je pense que personnellement, je suis devenue de plus en plus au courant des choses militantes cette année, grâce à vous aussi, notamment, et grâce à mon expérience qui continue à évoluer. J'ai notamment été au camp Action Climat, qui m'a apporté beaucoup de bonnes choses. C'était extraordinaire d'être dans cette ambiance. Donc personnellement, je pense que c'est plutôt dans un sens positif. Je deviens de plus en plus sensible aux questions écologiques. Bon, après, chaque être humain sur la planète est sur son propre histoire par rapport à ça.
Donc en gros, bilan de l'année, il faut venir en fait militer dans l'écologie.
Oui, c'est clair.
Ça vous rend plus optimiste en fait.
Et toi, Johan, ton petit bilan alors ?
Je suis d'accord avec Rebecca que l'événement, c'est le CAC, le camp Action Climat. C'est ce qui m'a le plus marqué sur l'année au niveau environnement. Après, sur le reste, il y a du bon et beaucoup de promesses qui sont données. Je pense pas qu'elles seront tenues. Moi qui voyage un peu, enfin qui regarde beaucoup, j'ai trouvé que la population était attentive, commençait à saturer, mais saturer peut-être pas à propos de l'environnement propre, mais plutôt à cause des nombreux messages qu'il y a de toutes les enseignes publicitaires devenues vertes. des promesses qu'on retrouve dans tous les magasins, sur les vitrines. D'ailleurs, d'ici quelques années, on devrait être entouré d'arbres dans tous les coins, tellement tout le monde promet des arbres en échange de diverses pollutions. On a eu l'événement qui n'a pas été très de Copenhague. Les suites qui n'ont pas montré que vraiment une forte impuissance des milieux dirigeants et des puissants. Et puis il y a aussi ce qui m'a le plus choqué, c'est que même si les gens seraient plutôt éveillés, je ne vais pas dire intéressés, mais c'est l'attitude des structures de notre société qui sont vraiment réfractaires à une évolution dans ce sens-là. Et moi qui essaye d'expérimenter justement tout ça, de changer donc mon mode de vie, je vois clairement que les structures de base ne veulent pas bouger et que ça devient difficile de tenir. Il y a plein de produits, je ne sais pas si vous allez dans les supermarchés, qui étaient verts.
Non, j'y vais pas.
Moi, j'y vais pas souvent, mais il m'arrive de faire des tours dedans. Et il y avait toute une série de produits en magasin, du genre la produit pour lessiver la vaisselle, enfin des choses comme ça, des détergents, etc. et ils ont été enlevés. Donc les rayons ont été vidés. Maintenant, toutes les promesses vertes commencent à faner. Et il y a beaucoup de produits qui étaient vachement intéressants, surtout, parce que c'était plutôt efficace. Alors, le bilan, je ne le connais pas, mais moi, j'ai commencé à m'abonner. Et au final, elles ont disparu. Donc, voilà. Donc, beaucoup de promesses ont été faites. Et le bilan... on arrive à la saturation. Et je reviens sur le CAC. Moi, pour moi, c'est l'événement qui m'a marqué le plus. Et les milieux alternatifs qui sont ici à faire quelque chose qui, pour moi, est marquant.
Il y avait aussi l'été, moi j'avais vécu aussi, c'est l'Alter Tour qui était très intéressant.
Et l'Alter Tour, oui.
L'Alter Tour, il y avait des choses intéressantes dessus. C'est différent du CAC, mentalité.
C'était un tour de France à vélo, en alliant de lieux alternatifs en lieux alternatifs.
Exactement, j'ai vécu juste une journée avec eux, mais c'est vrai que c'était très intense. Et en même temps, plein de convivialité, on était chez un paysan, hébergé le soir. C'était vraiment très très fort comme moment. Donc j'ai vécu qu'une journée de ce moment-là, mais je pense que j'essaierai peut-être de voir ça aussi l'année prochaine, vers où ça se passe. Parce que là, c'était à côté de chez moi, donc du coup, je suis allé à Alter Tour. Mais c'était vraiment intéressant. C'est aussi un moment fort et intense, peut-être que tout le monde n'a pas vécu globalement, mais c'est intéressant aussi.
Là, j'ai vraiment, quand on vous entend tous les trois, donc vraiment là où on apprend le plus de choses, où on évolue et on a envie de faire des choses, c'est en rencontrant d'autres gens, en allant dans des manifestations, dans différents rassemblements. Donc, c'est là où on échange les expériences, où on échange les informations réelles, qui ne passent pas non plus par le filtre des médias ou de la...
Oui, c'est particulièrement business, impressionnant d'ailleurs.
Et je pense qu'aussi ce qui est peut-être qu'on a tendance à l'oublier, mais quand c'est en climat, c'était pas seulement la rencontre avec des idées, mais c'était la rencontre avec une pratique, d'une façon de vivre extrêmement économique, écologique, parce qu'on était dans un champ et du coup on a développé des rapports avec l'énergie, l'eau, la nourriture qui était complètement différente de ce qu'on a l'habitude de faire en ville ou même simplement dans la vie ordinaire. C'est-à-dire il y avait vraiment des choix où il y avait une réflexion sur la consommation à chaque instant. Et aussi le mode de fonctionnement, autogestion, le respect de l'autre, etc. Ce qui était très particulier.
Moi, je n'avais pas vécu ça depuis peut-être la marche pour la décroissance d'essence. Ça a d'être dans une situation... donc c'est passé en 2005 environ, non ? Où on avait fait une marche jusqu'à Magny-Cours contre la F1 et d'être dans des situations en fait où on marche déjà, ça m'a rappelé l'Alta Tour, ça m'a rappelé un peu ça parce qu'on était à vélo, on marchait, on discutait, du coup il y avait beaucoup d'échanges entre les personnes parce qu'en marchant, t'échanges avec les personnes qui écoutaient toi, à vélo pareil, si vous êtes à la même vitesse, sinon tu profites du paysage et en fait, et d'être aussi dans des situations où on dort dans des tentes le soir, on est un peu nomade, mais on discute, on fait beaucoup d'ateliers, c'est très riche, c'est très fort. Et c'est vrai que le camp Action Climat, il y avait plus ce côté-là, justement, il y avait cette vie de groupe avec des ateliers, des choses comme ça, qui nous apprennent beaucoup de choses. En fait. Et c'est très riche. Et de voir des systèmes alternatifs marcher, c'est vachement rare, je trouve. Et là, on avait bien tenu le coup, quand même.
C'est un véritable laboratoire.
D'ailleurs. Ouais, exactement.
Vraiment un laboratoire. Est-ce que vous en avez parlé à vos amis, à vos proches de cette expérience qui vous a tant apporté ?
Moi, j'en ai un petit peu parlé, oui. Mais c'est vrai que c'est un peu comme si on... Bon, pas tout à fait, mais un peu comme si on revient d'une retraite où on a fait quelque chose de tellement différent de ce que les autres gens ont fait pendant leurs vacances que bah, tu racontes un petit peu les choses. Ça paraît un peu excentrique, mais... Mais il y a pas mal de gens, oui, qui ont trouvé ça assez impressionnant, qui justement avaient envie d'aller voir le site et voir ce que c'était. J'avais une copine qui me dit « Oh, mais t'avais une cantine végan ! Oh, quel rêve !»
Radical cocotte.
C'est vrai que souvent, pour les gens qui sont pas encore... qui connaissent pas encore certaines pratiques, ça peut leur donner aussi des petites pistes de réflexion et puis les amener à une démarche, et puis voilà. Donc je pense que tout le monde évolue à son rythme, et puis faut pas hésiter à en parler autour de soi, et puis peut-être qu'il y a des gens au premier abord, ils vont trouver ça un peu... Enfin, ils vont pas vraiment comprendre, et puis petit à petit ils vont s'intéresser, ils vont comprendre, après ils vont, comment dire, approuver ou pas, mais
c'est vrai que... Il n'y a pas que du blabla en plus, il y a de l'action.
Oui, on peut dire ça.
Quelle action ?
Ah, les actions... J'ai pas pu en participer à beaucoup. Moi, celle qui m'a marqué dans la période où j'étais, c'était le montage de l'éolienne. Donc c'était assez intéressant parce que c'était commun, puis on a eu pas mal de soucis. Et après, il y a eu pas mal d'actions qui ont été organisées, mais c'est là que quand on est nouveau, c'est un peu difficile. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient organisées, et que ce soit manifestations en rue, blocage des voitures... distribution de flyers, des choses comme ça, et d'autres qui permettent d'échanger pas mal et de justement d'affirmer un peu ces idées, parce que c'est un peu difficile à l'heure actuelle, hein. On n'est plus dans un contexte très favorable, et ça permet vraiment de partager sur le terrain avec l'action du 16 octobre hein, aussi, hein, qui était un peu particulière parce qu'on est arrivé là-bas.
Vous êtes arrivé là-bas où ?
Devant la raffinerie.
Au Havre.
Ouais, oui, devant Total. Mais elle était déjà arrêtée. Donc, en gros, ils ont eu tellement peur de nous qu'ils ont tout arrêté bien à l'avance, quoi, avec un comité d'accueil.
Ça tombe au moment des grèves.
Exactement.
Oui, aussi. Oui, non, mais ils ont quand même redémarré quand on est parti. Hein. Les torchères ont redémarré après. Et donc, c'était quand même assez intéressant. Et ça fait des premières expériences communes assez intéressantes, je trouve. Vraiment une occasion, ce qui est difficile maintenant, justement. Donc voilà.
Khaled, tu voulais parler ?
Ouais, c'était aussi un autre événement très fort. C'était aussi en novembre dernier le procès des faucheurs de GM à Versailles. Où il y avait donc dans une autre façon en fait pas mal de choses. Il y avait des conférences plus avec Christian Vélo, des choses comme ça, et c'était des moments très forts là aussi, et le procès de 58 faucheurs là-dedans, et on y a appris beaucoup de choses, hein. Vraiment on apprend beaucoup de choses, et il y a des soutiens aussi, enfin c'est vrai que d'être dans les luttes c'est vraiment impressionnant, quoi. Enfin, on est vraiment, et puis des êtres humains, enfin des vrais êtres humains à côté, et c'est des moments qui font vibrer.
Ouais. Du coup, là, c'est pour 2010, mais est-ce que vous avez des choses à rajouter déjà pour 2010 ?
Grosse année déjà.
Grosse année. Et pour 2011, alors, qu'est-ce que vous voyez ? Quels sont vos vœux pour faire dans le conventionnel ou vos espoirs, ou est-ce que vous avez des luttes, des combats de prévus ?
Moi, je sens début de changement de monde. Je le sens une grosse année, je sais pas. Bien mouvementé. Je sais pas.
Moi, j'ai encore beaucoup de luttes à mener. Et aussi, je pense que... Oui, je souhaite... les meilleurs vœux à l'année 2011 pour qu'elle soit plus écologique, quoi. Donc, et plus sociale aussi. Enfin, enfin d'essayer de combattre un peu ce système dominant qui nous bouffe de partout et de lui dire non et de faire d'autres choses. Voilà.
Parce que c'est vrai qu'avec tout ce business vert dont tu parlais, Johan, toutes ces publicités, ces produits plus verts que verts qui nettoient sans polluer, on connaît pas derrière, enfin, quel est l'impact social, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même... Ouais, mais on nous met, enfin, ce qu'on appelle le greenwashing, quoi. C'est qu'on passe un coup de peinture vert, puis derrière, t'as quand même toujours des gens qui sont exploités pour fabriquer tel ou tel produit.
Ce qui m'a le plus choqué, moi, cette année, c'est le bio à tout va, et le logo AB qui fait du bio, qu'on retrouve maintenant dans les grandes distributions, et récemment, on est tombé sur... je ne sais pas si je peux le nommer, mais McDo, Quick, machin chose, là, tout ça. Mais ils avaient fait un McBurger bio. Et là
c'est McBurger bio.
Voilà, ça fait bizarre, quoi. Donc, ça fait partie des choses choquantes de l'année 2010, et on va voir si ça va continuer en 2011.
Hein. Je pense qu'il y a une émission qu'il faudrait qu'on fasse, c'est de un peu comment déchiffrer tous ces labels, parce que là, c'est vraiment... Ça commence à être... assez compliqué. Je pense qu'en effet, il y a des labels qui ont perdu un petit peu leur rigueur par rapport à la planète, l'écologie en général. Puis il y en a d'autres qui sont renforcés.
Ça peut être intéressant comme émission là-dessus. Enfin, moi, je connais
Je suis un petit peu déçue maintenant avec l'idée du bio, parce qu'AB, en effet, c'est pas de pesticides, pas de fertilisants artificiels, mais après, au niveau de l'utilisation de l'énergie, de l'eau, etc., il n'y a aucune discipline, aucune rigueur. On peut transporter toutes ces choses en transport frigorifié depuis le bout du monde et ça passe tout quand même comme AB, quoi.
On peut poser aussi la question sur le label. Est-ce que c'est vraiment... c'est utile parce qu'on a un manque de confiance envers les producteurs, mais est-ce que c'est toujours la bonne chose aussi?
Il faudrait retrouver la confiance quand on va sur les marchés. T'as des
justement,
petits,
voilà.
C'est la confiance directe, oui.
Avec des petits paysans qui font leurs produits. Et puis...
puis un échange qui est humain et c'est intéressant.
Le contact.
Donc,
et la bonne bouffe.
Le contact et la bonne bouffe. Donc la boucle est bouclée. Une année 2010 sur du contact, de l'échange, et une année 2011 qui poursuit sur du contact, de l'échange.
De l'échange et de la relocalisation aussi. C'est important aussi. Bon. J'espère qu'on arrivera à se relocaliser au niveau alimentaire en tout cas. C'est important.
Donc là, on va passer quelques extraits de l'année. C'est ça ? On a le temps ?
Un melting pot. Des meilleurs moments, un best-of.
D'accord.
Des émissions. Et on va terminer notre émission tranquillement en vous souhaitant une bonne fin d'année et une glorieuse et écologique année 2011.
Voilà. Et nous, on se retrouve le quatrième ou dernier jeudi de 2011. Et on
comme
vous
d'hab.
Dit...
De janvier 2011.
C'est vrai. Et donc, comme le dit Bébert... Ouais. Bonne année à tous et salutations écologiques et solidaires.
Pollution, je dis non, mais à la vie, je dis oui.
Là, on se retrouve donc sur le stand de la Crérade. C'est un des stands qui est représenté à Marjolaine, qui essaie de communiquer sur leurs actions. La CRIRAD, je vais donc expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Et on se retrouve donc sur le stand et je vais poser quelques questions à Michel, qui est administrateur pour la CRIRAD. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement et quel est votre rôle, quelle est votre motivation?
Voilà, la CRIRAD est née juste au lendemain de Tchernobyl, en réaction au discours du nuage qui se serait arrêté à la frontière. Et à ce moment-là, on s'est aperçu que, tout en étant un pays très nucléarisé en France, eh bien, le gouvernement préférait protéger l'image du nucléaire que le citoyen. Et ça, on ne l'a pas accepté. On a créé notre propre laboratoire, on a fait nos propres analyses sur les plantes aromatiques, sur les champignons, et on a sorti les premières cartes de retombées de Tchernobyl en France. Ces cartes font toujours référence aujourd'hui, parce que c'est un travail de scientifique. Et donc la CRIRAD, c'est à la fois un laboratoire de mesure de la radioactivité avec des salariés. Actuellement, il y a 15 salariés. Une majorité sont des scientifiques, des physiciens. Mais ce laboratoire est géré par une association. Nous sommes 5000 adhérents. Et donc, c'est un grain de sable par rapport au lobby du nucléaire. Hein. Le gros problème du nucléaire pour le citoyen, c'est que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, et qu'on peut nous raconter n'importe quoi, on ne sait pas trop quoi en penser. En plus, il n'y a aucune pédagogie de la radioprotection en France, et c'est vrai que le français a du mal à se faire une opinion sur le danger lié au rayonnement ionisant, à la radioactivité, etc. Donc la plus-value de la CRIRAD, c'est d'être un laboratoire à la disposition, au service de ses adhérents ou des associations qui ont des problèmes liés à toute forme de radioactivité. Donc ce n'est pas une association anti-nucléaire, c'est sur les risques liés à la radioactivité, dans le domaine du nucléaire, bien sûr, mais aussi dans le domaine de la santé, de l'alimentation et du médical. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on peut vous demander de faire quoi comme analyse, par exemple? Qu'est-ce que vous allez faire pour les adhérents
Je peux vous donner un exemple. C'est un adhérent dont la femme et la fille ont eu une leucémie à quelques mois d'intervalle. Et les médecins ont dit ce n'est pas héréditaire, il y a autre chose, il y a un empoisonnement. Où est-ce que vous habitez? Et le gars avait une maison là, dans Lyon, dans le sud de Lyon. Et ils ont dit, le sud de Lyon, il y a des centrales pas loin de la vallée de la Loire. Il n'y a pas eu de contamination. Et le gars a dit, quand j'ai acheté ma maison, dans le jardin, le propriétaire était un ferrailleur. Il avait plein de ferrailles. Et on lui a dit, si ces ferrailles étaient radioactives, contaminées, parce qu'on peut récupérer des ferrailles contaminées, il se peut que ça puisse empoisonner votre femme et votre fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé au CEA pour venir faire des mesures. Bon, le CEA a dit, on ne va pas faire des mesures dans un jardin, le commissariat à l'énergie atomique. Il s'est adressé à l'IRSN, l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire. C'est un organisme d'État financé par nos impôts, pour demander, j'aimerais bien savoir si dans ma maison n'est pas contaminée parce que j'ai ma femme et ma fille qui ont été empoisonnées. Bon, on lui dit, on ne fait pas de déplacement pour des particuliers. Bon, il ne savait pas qui aller voir. Et en désespoir de cause, il s'est adressé aux pompiers. Vous savez que les pompiers ont des appareils de mesure de radioactivité. Et le capitaine des pompiers a dit, moi je peux venir mesurer, mais je n'ai pas le droit de vous donner les renseignements. Voilà l'état d'un citoyen français. Dans un état qui est le plus industrialisé au monde en nucléaire par rapport au pourcentage de population, voilà, si vous êtes un citoyen, que vous avez un problème avec des déchets radioactifs ou une pollution éventuelle, eh bien vous avez des organismes d'État qui ne se déplacent pas. Alors c'est le pompier qui était sensible à sa situation qui a dit, écoutez, si vous voulez que ça soit vite fait, bien fait, appelez la CRIRAD. Il nous appelait, et comme moi j'habitais pas trop loin, j'y suis allé avec mon petit compteur GGR pour mesurer. Voilà, bon. Et c'est comme ça que, effectivement, l'existence de la CRIRAD, c'est ça, c'est qu'on est dans un monde, dans une société, où le citoyen, il est seul face à l'industrie, face aux organismes de l'État, qui ne veulent pas prendre le risque de trouver des choses et qu'on, d'un seul coup, qu'on montre qu'il y a une pollution quelque part due à la radioactivité. Voilà. Hein.
Et alors, par exemple, c'est sauvé dans ce cas particulier que le ferraille était radioactif? Vous n'êtes pas capable de nous le dire?
Non, alors en fin de compte, les ferrailles qu'il avait n'étaient pas des ferrailles industrielles, c'était des ferrailles qui provenaient alors soit des vieilles cuisinières, soit des outils agricoles. Donc c'est pas le type de ferraille, parce qu'il faut savoir qu'on trouve actuellement des ferrailles qui sont radioactives, qui sont des déchets, mais qui proviennent surtout des pays de l'Est ou même de l'Italie, où là il n'y a pas une très grande rigueur dans la gestion des déchets radioactifs. Et ces ferrailles, on peut les retrouver par le marché, par les ferrailleurs, on peut en retrouver dans notre environnement et ça peut contaminer des endroits ou des gens, bien sûr.
Est-ce qu'il y a de la radioactivité naturelle dans l'environnement qui n'est pas nocif? Parce que, bien sûr, on sait que le nucléaire, c'est radioactif, ça produit de l'énergie grâce à ses combustions. Mmh. Mais la radioactivité, ça existe naturellement aussi?
Bien sûr. La Terre est radioactive. D'ailleurs, la Terre, au début, était tellement radioactive que la vie n'a pas pu se développer sur Terre. La vie s'est développée dans la mer parce que l'eau protège de la radioactivité. Et donc, la vie s'est développée sur Terre quand la radioactivité naturelle a commencé à décroître. Voilà. Et il y a toujours de la radioactivité naturelle sur la Terre, due en grande partie à l'uranium. L'uranium est une roche naturellement radioactive et qui se trouve dans le sol. Hein. On en trouve actuellement beaucoup au Niger, par exemple. Vous savez que le Niger est un grand producteur d'uranium. Il y a de nombreux pays qui veulent se lancer dans le nucléaire, qui vont exploiter les mines du Niger. L'uranium est naturel, et ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux. Hein. Vous savez, sur la Terre, les choses naturelles, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est naturel. Les champignons, c'est naturel. Il y en a qui sont comestibles, il y en a qui sont dangereux. Un précipice, c'est naturel. Vous avez des plantes qui sont naturelles, qu'on utilise pour l'homéopathie, mais qui sont dangereuses, prises à forte dose. Hein. Donc la radioactivité, c'est toujours dangereux. Il faut comprendre que c'est un rayonnement, et que ce rayonnement, il peut vous transpercer, et que le compteur du corps ne se remet jamais à zéro. Et que ça peut vous détruire des cellules, ça peut détruire la chaîne de l'ADN.
Merci beaucoup pour cette explication.
Pollution, je dis non, mais à la vie, je dis oui.
Je suis vert, vert, vert. Je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre, cette jolie terre que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver durant des millénaires. Les rivières écument, les usines fument, les moutons mangent leur papa changé en granulé. Les déchets ultimes, la vache folle en prime, sont un petit cadeau du ciel de nos industriels. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. De Brest aux Maldives vont à la dérive des poubelles radioactives jusqu'au fond des lagunes. Et même sans tapage, des maires de village en enterrent dans leur commune pour faire entrer des thunes. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. Les blés, les patates sont bourrés de nitrates. On shoote aussi bien les veaux que les champions au niveau. On se fait les tartines au beurre de dioxyde. En voiture, on a le point vert pour doser nos cancers. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces pauvres qui bousillent la terre. Sous la couche d'ozone, l'oxyde de carbone tue nos forêts si précieuses autant que les tronçonneuses. L'air pur s'amenuise, nos sources s'épuisent, mais colorants, salmonellose nous font la vie en rose. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. Pour qu'il n'y ait pas de panique, leur poison transgénique, ils les nomment science de la vie ou biotechnologie. Leurs gènes font la nique aux antibiotiques. Pour guérir nos infections, faudra de l'inspiration. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. Tous les ans, bonhomme, 7 milliards de tonnes de gaz mortel CO2 s'envolent dans les cieux. L'effet de serre menace, ça fait fondre les glaces. La mer monte, c'est sans danger, il n'y aura qu'à éponger. Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. Il y a ceux qui chantent la chanson du profit contre tous ceux qui aiment la chanson de la vie.
Ce soir, on va parler du Grenelle 2, du Grenelle final qui va nous sauver, enfin soi-disant. Et on va voir que c'est pas si rose et que bon, les belles promesses du départ deviennent de tristes réalités. Mais avant ça, on va faire un petit apéro presse histoire de se mettre en condition.
Oui, alors apéro presse rapide, hein, en gros. C'est ce qu'on a vu un peu sur la toile en ce moment. En gros, il y a eu un petit, problème aérien là le mois dernier. Vous en avez entendu parler, non ?
Pas de problème, non, aucun problème.
Moi,
j'ai pas pris l'avion, donc j'ai pas eu de problème aérien.
J'ai pas pris l'avion depuis 5 ans, donc aucun problème.
Moi aussi, en fait.
Mais bon, il paraît qu'il y a quand même des gens qui ont eu des vols annulés, tout ça. Hein, je sais pas.
Ouais, qui ont eu des vacances prolongées, il paraît.
Enfoiré.
D'accord, parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a un mec qui a réagi par rapport à ça, il s'appelle Yves Cochet, il a dit qu'en gros, par rapport aux avions, là, qui ont été, il n'y avait plus d'avions aériens, en fait, donc en gros, il y a un volcan qui a éclaté au Suède, non, c'est ça ? Éclaté, oui, qui est en Islande, pardon.
Le volcan entre en éruption, on va parler un peu de vocabulaire.
Donc il y a eu des gros nuages qui sont passés partout sur l'Europe. Et les avions ont été maintenus au sol parce que c'était, à ce qui paraît, très dangereux voler pendant qu'il y avait des nuages au-dessus.
Et donc,
c'est quoi le résultat ?
C'est que c'était la panique générale parce qu'on ne pouvait plus faire de fret aérien, on ne pouvait plus ramener les gens qui étaient en vacances un peu partout dans le monde, chez nous. Et il y a un mec qui a réagi par rapport à ça, qui a fait un petit rapport par rapport en fait, à la raréfaction des matières premières, notamment donc en fait c'est la théorie un peu de ce qu'on appelle le pic de pétrole. Ça veut dire que en fait d'ici quelques années il y aura plus de pétrole, il y aura plus le pétrole bon marché parce que en gros on va commencer un peu à racler les fonds parce que le pétrole est une énergie donc de stock, et c'est une énergie finie, on n'a plus pour très longtemps. Et donc ce monsieur, donc Yves Cochet, prétend que cette raréfaction des matières premières, il est très probable qu'il n'y ait plus de transport aérien qui touchera sa fin d'ici 15 ans environ.
C'est optimiste quand même, 15 ans. La fin de l'avion, c'est quand même... c'est presque militant comme message.
Utopiste, je dirais. Ou alors réaliste, et puis il n'y aura plus que les militaires qui circuleront en avion.
Alors moi, j'ai trouvé ça... utopiste peut-être, j'ai trouvé ça sur le site internet de décroissance.org, qui parle pas mal de décroissance et de ces choses-là. Hein. Vous irez voir si vous avez envie d'en entendre parler. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que donc, ce mec a prétendu ça. Il prétend même qu'il y ait des solutions. Hein. Il faut redevenir humble, commencer à avoir une politique de sobriété, des choses comme ça. Et il y a même des gens à Washington... disent qu'ils envisagent même un déclin donc, de la production de pétrole mondial à partir de 2011. Notamment, donc, c'est un monsieur qui s'appelle Glenn Sweetnam, qui est principal expert officiel du marché pétrolier au sein de l'administration Bush.
Donc il sous-entend
Obama, c'est l'habitude.
C'est fini Bush. Hein.
Sous-entend que à partir du moment où on a une course, c'est quoi ? C'est une consommation moindre, c'est une extraction moindre parce que le pic du pétrole, il faut peut-être expliquer exactement.
En fait, il ne reconnaît pas vraiment le pic de pétrole en soi. Il est pas loin. En fait, il reconnaît un déclin de la production de pétrole mondial à partir de 2011. C'est ce qu'il dit en fait dans cet article que j'ai trouvé sur ce site. En gros, c'est que l'administration Obama défend en fait la théorie du plateau ondulant. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas décroître tout de suite, mais avoir un peu un plateau ondulant. En gros, on va arriver sur un plateau et la production ne va plus augmenter, mais va stagner un certain temps.
Ça va
jusqu'à onduler. Décroître.
Ça va onduler pendant un moment, les fluctuations.
Donc ça y est, c'est le début
exactement.
De la fin, du capital carboné, de la civilisation.
Et après, c'est la grande chute, mais bon, l'administration Obama ne va pas annoncer ça comme ça, évidemment. Comme tous les gouvernements, ils vont trouver des termes techniques et précis où personne ne va comprendre. Mais bon.
Du moins, ils cherchent des choses à dire. Et ce mec, donc Glenn... qui est responsable aussi du rapport international annuel du DOE. Qu'est-ce que c'est le DOE ?
C'est le Department of Energy.
La classe, on s'y connaît bien. Et donc, du coup, ce mec dans une interview, dit d'accord que si les investissements font défaut, il existe une chance pour que nous fassions l'expérience d'un déclin. Donc, par rapport à cette production de pétrole. Il prétend en fait sur des théories où, en gros, il y aurait des projets non identifiés. Il y en a qui prétendent qu'il y aura des gisements de pétrole, mais c'est des projets non identifiés.
C'est un peu comme les objets volants. Voilà.
Exactement, sauf que c'est la même chose pour le pétrole. Donc, c'est un peu de la science-fiction pour l'instant. Et donc, voilà, il y aura donc un écart croissant entre la demande mondiale qui et la production qui va décroître. C'est très triste. Et il prévoit donc une baisse de la production de moins de 2% par an. Alors, je ne sais plus ce qu'il est devenu, ce mec. Ce qui paraît, toi, tu t'es pas mal informé là-dessus, Clément.
Aux dernières nouvelles, il a été muté parce qu'il a été trop bavard. Voilà. Il n'a pas
c'est
été licencié.
C'est un autre rendez-vous important.
Allô, allô. Non, il n'a pas été licencié, mais juste muté, peut-être dans un placard. Donc, bon, on va peut-être entendre parler de lui à l'avenir, mais disons qu'il n'a plus les mêmes responsabilités. Voilà. Il ne faut pas trop parler dans l'administration Obama, même si elle est ouverte, soi-disant.
Bon, sinon, vite fait, en gros, pour l'apéro presse, parce qu'on va devoir passer à un sujet à la suite, c'est que Claude Allègre a porté plainte donc, contre des personnes qui ont écrit dans une tribune libre à Politis. Donc Claude Allègre qui est assez connu, et en gros, c'est des personnes qui ont écrit un peu sur ces vieilles casseroles du passé. Donc je vous invite à aller sur Politis pour avoir des infos là-dessus.
Il y a une pétition à signer pour les soutenir, évidemment. Puis c'est pas n'importe qui, on peut dire. Non, c'est quand même des scientifiques, des gens qu'on peut creuser. C'est pas de la diffamation gratuite, c'est vraiment des faits avérés. Mais bon, apparemment, ça plaît pas à monsieur Allègre, qui a beaucoup de casseroles derrière lui. Voilà, voilà.
Donc voilà, en gros, et monsieur Allègre qui nous fait penser un petit peu à ses lobbies, hein, duquel on va parler ce soir. Notamment parce qu'il contredit un peu les thèses du réchauffement climatique. Et donc du coup, on va passer à la suite.
Pollution, je dis non, mais à la vie, je dis oui.
Voilà, et comme on est autofinancé et qu'il ne nous aide toujours pas, on commence direct, en fait, avec la minute du démantèlement publicitaire. Khaled, à toi.
Alors déjà, la minute de démantèlement publicitaire, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une nouveauté. On va essayer de faire en sorte qu'à chaque mois, quand on va passer avec la bande à Bébert, on va faire la minute anti-pub ou la minute de démantèlement publicitaire. Alors comment ça a démarré tout ça ? On va commencer en démantèlement justement les médias avec publicité. Et surtout les médias dits gratuits, donc qui sont financés à 100% par la publicité, contrairement à nous, AFPP, où il n'y a aucune publicité qui nous finance à part la taxe. Et donc du coup, en fait, qu'est-ce qu'on a déjà contre la publicité en soi ? C'est à la tienne, c'est que la pub manipule ses spectateurs par différents stratagèmes. Et en plus, donc, le système publicitaire est envahissant, agressif, manipulateur, et colonise donc nos désirs et notre imaginaire et notre cerveau. Donc voilà en fait ce qu'on a un peu contre la pub qui en gros nous incite à consommer et du coup on lui dit merde en gros et on lui répond justement en disant que voilà on gaspille trop d'énergie et par rapport à la presse écrite donc avec les gratuits donc trop de papier. Donc déjà pour le gratuit en fait il faut savoir que la publicité ça coûte environ 500 € par personne par an. Donc les journaux dits gratuits ne sont pas vraiment gratuits en soi. Puisque en fait, finalement, on répercute les prix dans les produits de consommation. Donc on paye de toute façon toujours la publicité. Et d'où il est nécessaire justement qu'il y ait des espaces aussi donc, d'information sans publicité où on peut critiquer, où les médias peuvent donc critiquer la publicité, enfin les systèmes économiques donc, qui vont faire de la publicité aussi. Et ces médias-là ne pourront pas le faire. Donc du coup, en fait, ça a commencé en analysant en fait, les journaux dits gratuits. Donc surtout, je prends le stéréotype même, c'est Bolloré Matin. Bolloré Matin.
On ne doit pas prendre les mêmes métros, là.
Direct Matin. Donc j'ai fait un petit calcul pour voir un peu le gaspillage de papier qu'il y a dans ce genre de journaux. En gros, en fait, sur 32 pages, il y a 32 pages, je les ai comptées une par une, et sur 32 pages, il y a 16 pages et demie donc de publicité et 15 pages et demie de soi-disant information. Donc il y a plus de pages donc, de publicité dans ces journaux-là que de pages d'information. Et encore plus, là, j'ai regardé tout à l'heure le direct soir, ils avaient 50 pages dont juste 14 pages d'information en fait, dessus.
On appelle ça aussi un sac à pub quand on est poli.
Exactement. Élise, qui est derrière là-bas, m'a dit on devrait appeler ça pub matin et pub soir. Je pense que ça lui irait beaucoup mieux. Donc, chacun a sa petite sensibilité et fait ça. Et en fait, comment ça m'est venu cette idée ? C'est que, en fait, ce que je fais, moi, c'est depuis que j'ai fait un événement en fait, avec Scope le Pavé, qui font des ateliers en fait, de décodage de langue de bois. Et il y en avait qui avaient décodé les médias.
Et du coup, bah, ce que je fais, c'est que, et grâce à Élise aussi qui a eu cette idée, c'est qu'on barbouille en fait les journaux dits gratuits. C'est-à-dire qu'on arrive, on regarde et on démantèle en fait tous les mots qu'il y a dedans et on laisse ça pour que notre prochain sache ce qui, comme quoi, comment ces journaux les manipulent.
Et du coup, là, tu nous as choisi quoi là pour aujourd'hui là? Donc pour aujourd'hui... ta minute pub a fondu en 30 secondes pub.
Donc, déjà, c'était déjà de démanteler les médias publicitaires comme celui-là, de dire comme quoi ils nous manipulent à ce niveau-là. Et en plus de ça, donc aujourd'hui, là, Clément. Tu peux me donner justement ce petit journal magnifique.
Tiens, informe-toi.
Donc merci. Si on avait la vidéo, comme d'autres médias de radio, eux, ils ont la vidéo, on pourrait voir cette magnifique puce. Tu peux nous la décrire vite fait.
Donc alors, cette magnifique puce, c'est une publicité de Total. Ouh. Ouh là là, on en a beaucoup parlé ici. Donc c'est une publicité en fait où ils montrent un gars en haut et une fille en bas. Donc le gars en haut et la fille en bas, hein. Bien sûr, les femmes c'est toujours en bas et les mecs en haut.
Enfin, décrit comme ça.
Oui, bah, c'est comme ça en tout cas qu'ils le montrent. Le mec est habillé en bleu et la fille en rose. Donc vous voyez, stratégie de manipulation, la division des sexes, les stéréotypes qu'ils reprennent. Et en plus, il y a des bulles qui les représentent. Donc la fille, elle a une bulle en violet pour elle, hein, toujours hein, pour les filles, et en bleu pour le mec, toujours en haut avec les panneaux solaires photovoltaïques. Et ils sont tous les deux souriants, hein, c'est toujours angélique, c'est beau en fait ce que Total fait. Bon, ils décrivent rien sur leur produit en soi. En fait, cette fille fait de la recherche au développement et lui, c'est un mec qui vend donc du solaire. Et en gros, quand on regarde dans les détails, en fait, ils font de la recherche et développement pour que l'énergie solaire soit plus compétitive et accessible à tous. Donc voilà ce qu'ils font en ce moment. Et surtout, en fait, ce qui a attiré moi plus mon attention, c'est une petite phrase qui est en bas. C'est en gros, en fait, il y a deux slogans. Il y en a un où il y a écrit « L'énergie est notre avenir, économisons-la » en tout petit. Et un autre où il y a écrit « Notre énergie est votre énergie ». Du coup, je ne comprenais pas. Je me suis dit « Merde, il y a deux slogans ». Là, vraiment, je n'arrivais pas à comprendre. Surtout que l'énergie est notre avenir, économisons-la. Je me suis dit « C'est étonnant de la part de leur part de faire ça. » Et en fait, j'ai découvert en faisant une petite enquête sur le net, comme tout le monde, que c'était imposé par un décret du 28 novembre 2006 que toute publicité sur l'énergie soit accompagnée d'un message éducatif. Donc l'énergie est notre avenir et économisons-la. Donc en fait, c'est une obligation légale qu'ils fassent ça et ça ne devait pas leur apporter beaucoup d'argent, je pense. Du coup, ils ont rajouté justement cette petite phrase. Il ne faut pas oublier aussi que
Total... On la retrouve en fait dans tous les fournisseurs d'énergie.
Dans tous les fournisseurs et en fait, même dans toutes les formes de publicité, marketing direct, mailing, etc. Ils sont obligés de mettre ça à la télévision et tout ça. Donc en gros, voilà pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de pub. Ce genre de phrase intelligible dans ce genre de truc. Et surtout, bon, Total, on a déjà parlé, hein, c'est quand même un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a eu des émissions sur le camp Action Climat là-dessus, donc climat, voilà. Je vous renvoie vers ça, vers notre site internet.
Sinon, du coup, la pub, ça me fait penser, je suis passé dans le métro il n'y a pas longtemps, j'ai vu ces gros machins, ces grosses télés gigantesques. T'avais deux mots à toucher parce que j'ai vu que c'était un peu... Il y avait des choses dessus collées, enfin, j'ai
oui,
pas
alors,
bien compris.
En fait, déjà, c'était ces petites télés en fait, qui sont un peu partout. Ça, par rapport au gaspillage d'énergie, ça consomme l'équivalent donc, d'une famille chacune, je crois. Si je ne me
c'est-à-dire un foyer
pas.
Par an
Un foyer par an, voilà, à peu près. C'est pas ça, non? Élise, peut-être que tu peux corriger.
Je crois que c'est l'équivalent de trois foyers de quatre personnes. Un écran de publicité. Consomme autant que trois foyers de quatre personnes.
Merci Elisa. Donc du coup en fait en gros en fait sur ces publicités en fait là il y a aussi un écran qui nous observe à l'intérieur qui identifie notre sexe et là où se pose notre regard quand on passe devant. Donc c'est vraiment très énervant en plus qu'il y a, déjà dans le métro il y en a plein. Et hier donc il y a eu une action anti-pub dans le métro, il y a le communiqué devant moi là, c'est tout frais et en fait il y a eu 118 panneaux qui ont été touchés dans 16 stations. Donc vous les verrez certainement en passant. Il y a eu des autocollants qui ont été mis dessus justement avec des messages conscientisants. Il y a eu des barbouillages.
Oui. J'apprends des mots.
Justement avec par exemple une caméra avec l'écran observe votre comportement. Il y a eu aussi des messages stop pub dessus, des choses comme ça. Où des militants donc, ont manifesté leur opposition. À ça, vous pouvez avoir plus d'infos en allant sur danger-6. écranpub.tk.
Voilà, donc je vous invite complètement à aller regarder un petit peu là-dessus pour vous informer plus longuement. Bon, bah du coup, là, en fait, c'était un pré-apéro. Donc là, on rentre direct dans l'apéro presse. Dans l'apéro presse, deux choses. BNP Paribas, qui s'y viennent foutre là-dedans. Et puis, on a blocage d'un train, France-Allemagne, c'est ni... comment ça s'appelle ? L'ICE, c'est le TGV allemand. Mais là, on enchaîne directement, en fait, par une animation. En fait, je ne sais pas dans quelle banque vous êtes, mais est-ce que vous savez où part votre argent chacun de vous autres dans vos banques. Moi, je crois qu'il y a Greenpeace, en fait, qui a une petite idée, un petit peu de où part, en tout cas, les gens qui sont chez BNP Paribas.
Salut. Vous êtes en direct du camp Action Climat, ici quelques personnes des équipes du Zoom Écologie. On est sous la tente Automédia et on avait envie de vous faire une super émission sympa en direct du camp Action Climat. Alors, le camp Action Climat, qui c'est qui me raconte ce que c'est?
Je sais pas, c'est quoi d'ailleurs? Pourquoi on est là en fait?
Qu'est-ce qu'on fout?
Ah oui?
Alors, ouais, on est sous l'automédia déjà. Donc, on fait nos propres médias au camp Action Climat. On peut au moins vous dire ça. On a participé à ça et là, on est en train de le faire. Le camp Action Climat, c'est quoi? C'est une bande d'énergumènes, d'individus qui se sont mis en collectif pour se dire tiens, on va tester un mode de vie autogéré, on va tout décider au consensus et puis on va en profiter pour lutter contre un crime climatique. Et l'année dernière, c'était l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Cette année, on est là pour la raffinerie du Havre de Total.
Et à l'origine, l'Action Climat, ça a commencé en Angleterre,
ouais.
Dans le sud de l'Angleterre, pour combattre le projet du 4e aéroport de Londres. Et ils ont gagné, je crois, non?
Ils ont gagné assez récemment.
Et donc, l'idée de l'Action Climat, ça a été exportée en France. L'année dernière, c'était la première. Donc,
mais
à
aussi
Nantes.
En Belgique, en ce moment même, d'ailleurs.
Et voilà, c'est la première fois que je participe. Et toi, Khaled?
Alors moi, je participe à tout ce que vous voulez, quand vous voulez. Donc, de toute façon, le camp Action Climat, on est là pour lutter pour la justice climatique surtout. On prend une grande partie et aussi pour changer de système et non pas le climat. Donc voilà, quoi, ça va être ce qu'on va raconter tout à l'heure.
Le mot d'ordre de cette année, c'est arrêt total. Et arrêt total, pourquoi? Et pourquoi on est au Havre? Cette année, on est au Havre. On est là pour lutter contre la raffinerie totale du Havre, qui est le troisième site en France le plus émetteur de CO2. Et sur ces bonnes paroles, on va vous laisser avec un petit plan de l'émission. Donc vous allez tout de suite entendre un cher monsieur de Total qui va nous raconter un petit peu comment ça se passe chez lui. On vous laisse avec ça. Et après, dans la seconde partie de l'émission, vous aurez un peu comment on s'organise avec plein d'interviews, plein de moments fun et plein de moments très vivants. Prise de son en direct, quasi en direct.
On n'est pas vraiment en direct.
Bon, d'accord.
C'est Zoom Écologie sur 106.3 FM. Et d'ailleurs, ici, sur 106.3 FM, on a la radio locale du camp climat.
Pirate.
Oui. On a parlé tout à l'heure d'automédia. Donc ici, tout est autogéré justement au niveau des médias en interne. On fait nous-mêmes nos médias. On ne met pas les médias. On devient nous-mêmes les médias. Et ça, c'est assez important de le répéter. On met tous nos enregistrements en commun. Et on va les diffuser aussi donc, sur 106.4. Donc la radio camp climat.
106.3.
Et là aujourd'hui, 106.3. Mais on va les réécouter après. Et aussi sur le camp.
Allez, sur ces bonnes paroles, on vous laisse kiffer bien. Salut!
Pollution, je dis non, mais à la vie, je dis oui.
Et tu sais, t'aimes bien le camp Action Climat, c'est ça?
Ouais, le seul truc que j'aime pas, c'est... c'est que quand Action Climat c'est contre l'industrie machin, mais moi je suis habituée au Nutella et c'est vraiment pas bon pour la santé, mais c'est très très bon, genre le japonais ça va, c'est bon, mais le McDo ou le McDo ça c'est bon aussi, mais j'aime bien aussi les pizzas,
c'est
et
bon
japonais
au niveau du goût, tu veux dire?
Ouais, mais peut-être pas pour la santé, mais c'est bon au niveau du goût.
Et ça te dérange pas?
Non, ça me dérange
après,
pas.
Après, il y a des
fous.
Végétariens aussi. Donc
on va chez des personnes, on les appelle les punks et puis ils nous refilent des saucisses.
Ah bah voilà. Donc il y en a toujours, mais c'est collectivement dans les restaurations, vous en trouverez pas.
Oui. Ouais, moi je trouve bof la
restauration. C'est pour ça. Parce que ça pollue énormément en fait de manger de la viande.
Ouais, mais on s'en fout.
De ramener du chocolat.
C'est trop bon.
Ouais, mais comme ça, le climat, son objectif, c'est aussi ça.
Ouais.
D'essayer de changer le monde. Du coup,
voilà.
Bon, c'est cool.
Merci.
À la cuisine. Bon, c'est parti. Journée alimentation, donc je suis à la cuisine. C'est quelle cuisine là où on est?
Cuisine 1.
Ah ouais?
Voilà. Cuisine 1. Du plan, comment ça s'appelle? Qui qui n'a pas défini son nom encore, son nom de code.
D'accord.
Et qui travaille.
Et donc la cuisine, j'avais lu que c'était aussi pour réduire l'empreinte écologique.
Voilà
ça.
L'idée, les gens qui ont monté la cuisine, en fait, c'est, voilà, c'est une cuisine végane, donc 100% végétalienne. N'utilise aucun produit animaux, voilà, pour les conséquences d'élevage sur le climat, pour faire simple. Et puis pour voilà, le respect du droit des animaux.
Je vois que tu as un t-shirt.
Voilà, ça c'est un t-shirt qui, de campagne Stop aux animaux dans les labos. C'est une campagne sale, qui s'appelle Sale, voilà, pour s'opposer à l'expérimentation animale, en fait, les tests pratiqués dans les laboratoires, pour la mise au point de médicaments, la mise au point l'évaluation de la toxicité des produits contenus dans les produits quotidiens, et bien, l'armement, les nanotechnologies, tout, voilà, des alternatives existent.
Et donc la question à deux balles, végétalien, est-ce que vous n'avez pas de carence, des trucs, voilà, comme ça,
La plus grosse carence auquel s'expose un végétalien, c'est la vitamine B12. Une carence en vitamine B12 entraîne des effets irréversibles sur la mémoire, entre autres le cerveau, donc il ne faut pas trop rigoler avec ça, sachant que le corps en fait en stock pour à peu près évalué à 4 ans, donc au bout de 4 ans on peut avoir recours à des gélules qu'on trouve en magasin bio, des gélules de vitamine B12, mais sinon voilà, des produits comme la spiruline, les algues, les levures de bière, tous ces compléments, les graines germées, les choses comme ça, où on peut vraiment trouver un petit équilibre, un équilibre en B12, quoi. Mais là il y a un échange de savoir-faire qui va se mettre en place, quoi, sur le camp. Les cuisines sont rencontrées, on discute, voilà, ça permet puis faire en fonction des produits stockés dans l'Economa, qui sont d'une diversité, d'une richesse exceptionnelle. C'est génial, voilà, bah, on a vraiment des super matières pour bosser, faire la bonne popote, quoi.
C'est quoi le menu d'aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a fait des haricots blancs façon mamie, une recette de ma grand-mère, c'est la meilleure de la terre, voire même au-delà. Et une pomme de terre, un petit sauté de pomme de terre avec des protéines de soja et à la sauge, avec des crudités, du super pain de nos super boulangers.
Mais pas besoin de fuir, il faut rester. Tout le monde sait bien ça. Mais il faut lui tenir compagnie, justement. Alors, c'est quoi alors le système?
Bonjour. C'est un vélo qui génère de l'électricité, comme un groupe électrogène ou n'importe quelle autre génératrice d'électricité. Donc on a repris un vélo qu'on a fixé sur une structure en bois et en métal.
Ouais.
La génératrice, c'est un alternateur de voiture qu'on a type Renault 5, 205, petit moteur, quoi. Et on a mis une courroie entre la jante du pneu arrière et la poulie de l'alternateur pour faire tourner le générateur. Et du coup, c'est vraiment tout simple. On a branché juste tous les câblages comme ils doivent être sur un moteur de voiture, quoi. Juste, on a fait aucune modification. On a juste assemblé les pièces. Et après, du coup, là, on a fait un petit tableau de contrôle.
Ouais.
Où on a donc quand on se met à pédaler, il faut mettre sur on pour que ça charge, sinon ouais, ça charge pas. Et surtout pas oublier de l'enlever après, sinon ça va décharger la batterie au lieu de la recharger.
D'accord.
C'est ça qui est le plus sensible, en fait. Faut bien mettre, quand on pédale, on met sur on, et dès qu'on a fini de pédaler, on remet sur off, parce que sinon ça va décharger la batterie. C'est à cause de l'alternateur, c'est un certain fonctionnement qui a besoin d'être alimenté pour commencer à produire.
Donc, c'est voilà.
Et après, là, on a fait des systèmes de vitesse, en fait. Et plus on met de résistance, et plus ça va être difficile à pédaler, quoi.
Tu connais bien toi aussi le système?
Je connais pas du tout, hein. J'ai déjà essayé.
Et là, l'intérêt du truc, c'est de pouvoir charger les téléphones portables directement sur la batterie 12 volts. Pour pouvoir les gens qui veulent charger leur téléphone viennent pédaler pendant un quart d'heure et ils peuvent charger leur téléphone 2 heures à peu près.
On peut recharger que le téléphone ou on peut recharger d'autres choses? C'est pas assez puissant.
On pourrait recharger d'autres choses. Ouais. Samedi soir, on l'a branché avec un petit onduleur, donc ça transforme le 12 volts en 220. On a branché une lumière à économie d'énergie et un radio CD, quoi.
Un poste radio CD à fond. Combien de lumière?
Je sais pas. Là, on avait une lumière de 11 watts et un poste radio et on a mesuré un poste radio et on mesurait quand on pédalait à fond, on produisait deux fois plus que ce qu'on consommait. Donc ça veut dire que si en tout on pédale un quart d'heure, on peut avoir une demi-heure de lumière et de musique.
Génial.
Voilà.
Donc en gros, si on est en manque de sport, on vient là pour recharger les batteries.
S'il n'y a pas de vent et pas de soleil, si c'est la nuit et qu'on a besoin d'un peu d'électricité, on vient là et
génial. On pédale. Bah, félicitations.
apparemment, je trouve ça excellent.
Ça a bien marché et il y a une semaine de bricolage avant le camp où il y a eu plein de gens qui avaient tous essayé, on a mis ça en commun. Et,
c'était fait collectivement.
Ça a fonctionné.
Excellent, bah, bravo, voilà. Merci.
Alors on est avec Eric et Bebe qui vont nous parler de l'éolien mis en place sur le camp qui nous a permis de faire des projections et tout un tas de choses. Alors l'éolienne qu'on voit là,
tout l'enregistre.
Déjà l'historique de ce système d'éolienne. Si tu peux la décrire un peu.
De ce que j'en sais, moi, c'est un mec qui s'appelle Hugh Pigott, que j'ai jamais rencontré personnellement, qui est un Écossais, qui s'est dit c'est pas si compliqué de fabriquer une éolienne et on peut tout auto-construire avec des matériaux de base. Et en plus, on peut apprendre aux gens à le faire pour qu'ils en aient une chacun chez eux, quoi. Du coup, il a travaillé sur plein de modèles. Et puis il a fini par trouver un modèle qui était assez accessible au niveau bricolage et vraiment satisfaisant au niveau rendement. Et il a commencé à organiser des stages et à rédiger un petit bouquin et à épandre son truc un peu partout. Et il y a du relais maintenant dans beaucoup de pays dans le monde où des assos locales organisent des stages d'éoliennes. Et en France, c'est l'asso Tripalium. Donc il y a un site web, on peut y aller, on voit s'il y a des stages à organiser quelque part, ou alors on peut les contacter pour organiser soi-même un stage. Et puis on auto-construit en une semaine une éolienne à plusieurs, qui sur le principe est un peu tirée au sort pour ceux qui voudraient la ramener chez eux après. Mais a priori, chacun repart avec la possibilité d'après après le stage d'en faire une pour lui, quoi.
Ouais, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de finalement la transmission technique et... Et abordable et voilà, on peut tout à fait, si on s'y plonge, s'approprier le fait d'en faire une pour chez soi, comme tu disais, et donc l'autonomie que ça propose, on peut brancher quel type d'appareil dessus.
Il n'y a pas de musique, donc là ça fonctionne très bien. Après, vu que c'est une éolienne que j'ai que depuis 4 mois, où du coup j'ai fait un stage et je suis reparti avec l'éolienne.
T'as été tiré au sort alors.
Voilà, j'ai été tiré au sort. Moi aussi. Comme Eric.
Super les gars. Ouais.
Donc elle n'est pas forcément complètement opérationnelle et du coup je sais pas exactement ce qu'elle produit.
Oui, après on auto-construit le truc et puis on apprend à le connaître, quoi. C'est un peu c'est un petit bébé, quoi, on apprend à le découvrir au fur et à mesure. Moi j'en suis à quelques jours, quelques semaines maintenant de l'avoir fonctionné, en tout depuis qu'elle est construite. Et j'apprends aussi à la connaître.
T'es venu à ça plus par le solaire avant ?
Ouais.
Plus calé sur le solaire ?
En plus oui, c'est vrai, j'ai vraiment commencé par le solaire. Le solaire parce que en fait tout simplement parce que j'avais plein de potes qui s'installaient en yourte et que je savais plus ou moins comment monter ça et que du coup j'aurais installé des petites installations faciles, ils étaient prêts à investir là-dedans et j'avais eu des prix à un moment et tout, du coup j'ai monté je sais pas combien de stations solaires pour plein de potes qui étaient en caravane, en habitat léger, quoi. Et je trouvais que c'était une solution facile, quoi. Mais la différence, l'éolienne, c'est vraiment pas pareil. Il y a un côté esthétique qui est vraiment non négligeable, quoi. C'est-à-dire que c'est une présence permanente, c'est quelque chose dont tu es fier, donc que tu es à côté de chez toi et que tu regardes tourner, que tu. Qui a sa vie propre aussi. C'est pas aussi froid qu'un panneau solaire, on va dire, au niveau émotionnellement parlant. Et. Si tu l'as auto-construite en plus, bon ben voilà, il y a un rapport pratiquement paternel avec le truc, quoi, c'est hallucinant, quoi.
Je suis assez d'accord, même si ça fait pas longtemps que je l'ai. Voilà, la regarder tourner, voir comment elle se comporte par rapport au vent. Là je sais par exemple que là elle est pas à l'optimum de sa production, donc.
Si vous voulez plein d'infos, vous pouvez les trouver au www.campclimat.org.
C'est pas grave,
là, 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 là,